ça, on verra. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Donc, je suis Olivia Couder. J'interviens ce soir dans le champ de mon activité professionnelle, puisque j'interviens auprès des collectivités territoriales avec une structure qui s'appelle ATERM, Atelier des territoires en mouvement. Et je m'intéresse d'une manière générale au développement local, mais aussi aux mutations institutionnelles qui sont à l'œuvre. Et Dieu sait si aujourd'hui, il y en a. Et qu'il me semblerait que le rythme s'accélère en plus. Donc, l'idée ce soir, le thème, c'était de parler. Alors, on a parlé de la réforme des collectivités territoriales de 2010, mais on a parlé avec un focus, si j'ai bien compris, sur la petite nouvelle, qui n'est pas si nouvelle en réalité, qui est la commune nouvelle, qui est une nouvelle collectivité territoriale. Qui, si elle n'intéressait pas les élus jusqu'à récemment, puisqu'elle est née en 2010 avec la réforme, à ce nouveau mandat, il y a un certain nombre de raisons qui font que certains élus s'intéressent à cette disposition. Donc on verra. Là, c'est mon pense-bête parce que je n'ai pas encore beaucoup manié tous les rouages, donc je me suis fait un pense-bête. Mais avant de. Ce que je vous propose, c'est avant qu'on rentre et qu'on fasse ce focus sur les communes nouvelles, c'est qu'on voit quelles sont les dynamiques qui sont à l'œuvre et pourquoi on en arrive là. Ça me paraît important qu'on puisse faire un petit pas en arrière et regarder qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui et qu'est-ce qu'ont à traiter les élus, en tous les cas, sur quoi ils ont à se prononcer et qu'est-ce qu'ils ont à gérer. Comme grande question aujourd'hui dans nos collectivités locales et plus particulièrement à l'échelle du bloc communal. Quand on dit bloc communal, c'est la commune et l'intercommunalité, la communauté de communes pour nous. Voilà. Donc je vais essayer en fait de retracer au fur et à mesure. Donc comme les règles du jeu ici, c'est... Donc pas de diaporama, pas de PowerPoint, etc. Donc je vais essayer de retracer à l'écrit, par des petits schémas, les différentes phases sur lesquelles vous pourrez après on pourra discuter. Du coup, ça nous fera un visuel quand même, on pourra s'y référer au fur et à mesure. Voilà. Pour la présentation, je ne sais pas si... Donc, je ne sais pas combien de temps je dispose pour que je...
Demi-heure,
ok. Donc, pour commencer, il y a une chose qui est importante dans notre pays, ici, qui est très particulier, c'est qu'on est... et ça, c'est le fond du paysage, c'est que nous sommes dans un État qui est de tradition très centralisateur. Et ça, c'est un élément essentiel dans l'organisation de nos collectivités. Donc, j'écris très mal, bien sûr. Centralisateur. C'est pas grave, il me faut de la place pour après.
Ouais.
Donc, il y a des phénomènes qui ont été à l'œuvre. On va revenir aux années, un petit peu avant les années 80. Il y a la mondialisation qui est de plus en plus présente. Donc ça, c'est une dynamique qui est à l'œuvre. Il y a l'Union européenne qui est de plus en plus prégnante aussi, avec l'économie libérale qui l'accompagne, on va dire. Et face à tout ça, il y a la nécessité pour les États de se repositionner et du coup pour notre État centralisateur de modifier un petit peu son angle, un petit peu beaucoup son angle d'observation. Donc il y a la nécessité d'un repositionnement de l'État. Donc, arrive un élément et une étape qui est essentielle dans l'organisation territoriale de notre pays, c'est en 1982, c'est quoi ? C'est la décentralisation, effectivement, qui là va modifier de manière conséquente l'organisation politique de notre territoire. Parce que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, on va avoir trois collectivités territoriales essentielles, hein, on va dire les principales. Donc, trois collectivités territoriales qui sont... Vous voulez, pour ne pas parler toute seule. La commune, le département et la région. OK ? Donc... Ces trois collectivités territoriales, certaines existent. La région n'existait pas en tant que telle. Le département, comment ça se passait avant 82 ? Ce qu'il faut savoir, c'est qui présidait le conseil départemental ou le conseil général ? Le préfet. C'est quand même un élément important. À ce moment-là, on va doter les collectivités territoriales d'un exécutif, donc d'un vrai pouvoir politique. Et c'est ça l'élément important, c'est qu'on va avoir des collectivités territoriales, on va avoir des pouvoirs politiques qui vont gérer localement les collectivités territoriales. Donc il y a un principe important avec la décentralisation, c'est la libre administration des territoires. Ça veut dire, avant, le préfet avait un contrôle avant l'exécution d'une décision. Aujourd'hui, à partir du moment où il y a la décentralisation, le préfet n'intervient que sur le contrôle de légalité, il ne peut plus se prononcer sur l'opportunité ou pas. Vous imaginez que quand on préside une assemblée d'élus, forcément, on oriente très fortement les décisions. Donc là, ce n'est pas le cas. Je suis mon plan. Du coup, dans cette décentralisation qui a lieu en 82, en fait, cette dynamique, elle va se poursuivre. Donc, il va y avoir un transfert. Donc, il y a un pouvoir exécutif qui est donné à tout le monde et la création de la région, puisque les premières élections de la région, c'est en 86, hein, c'est assez récent. Un pouvoir exécutif, ça veut dire un pouvoir politique avec des compétences, avec un transfert de compétences pour chacune des collectivités territoriales. Donc, grosso modo, vous le savez, la commune, c'est l'entité, c'est l'échelon de proximité, c'est tous les équipements de proximité, plus il y aura l'urbanisme, qui est un élément important qu'on va revoir, mais pour ceux qui vous intéressent, les PLU, les SCOT, etc., c'est lié à la compétence de la commune. Le département, on dit que c'est l'échelon de solidarité, hein, c'est tout ce qui est action sociale. Et la région va être plutôt l'échelon de coordination parce qu'il va être l'échelon que l'État va utiliser pour dispenser sa politique d'aménagement du territoire. Voilà, via des contrats État-région, à l'époque, des contrats de plan État-région. Là, c'est clair ?
Oui.
Jusqu'à maintenant ? OK. Donc, dans cette dynamique de décentralisation, il va y avoir une autre étape qui se situe en 2003. Où la décentralisation va devenir un principe constitutionnel. C'est-à-dire que l'article 1er de la Constitution dit que la République est une République indivisible, donc on voit bien qu'il y a une unité, qu'on ne peut pas fragmenter, mais par contre, son organisation est décentralisée. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui rentre en ligne de compte. Ça devient, la décentralisation devient un principe constitutionnel. Et puis, il va y avoir, en fait, on dit qu'aujourd'hui, on est en train de vivre le troisième acte de la décentralisation, mais on peut s'interroger parce que, en réalité, les transferts de compétences... Bon, il y a des transferts de compétences, mais qui ne sont pas énoncés comme tels. Si on prend l'instruction du droit des sols, l'État se retire d'une compétence, mais ce n'est pas pour autant qu'il reconnaît qu'il transfère une compétence. Parce que dans cette disposition-là, il y avait aussi la garantie qui devait être assurée aux collectivités d'avoir, je ne sais plus exactement comment c'est formulé, mais en gros, si on transfère des compétences, on transfère les moyens pour exercer ces compétences. Il y a aussi la question des rythmes scolaires. Si on prend l'actualité, aujourd'hui, ben voilà, il y a une réforme. On ne dit pas que c'est une compétence qu'on impose aux collectivités territoriales, mais d'empêche qu'elles ont à intervenir et à gérer ce temps d'activités périscolaires. Il y a des fonds qui sont mobilisés une année en râlant une deuxième année, mais c'est des fonds d'amorçage, on appelle ça. Mais on n'a pas énoncé qu'il y avait un transfert de compétences. Donc on n'est pas vraiment dans des transferts de compétences, mais aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre, c'est plus une redistribution, une organisation, une nouvelle organisation du territoire, avec deux lois qu'on va voir après, que je vais détailler, mais il y aurait un acte 3 qui va plus vers l'organisation territoriale de notre territoire, qui s'occupe plus de l'organisation territoriale que du transfert des compétences. En tous les cas, il n'en énonce pas tant que ça. Voilà. Avec, on va le voir, mais les régions, entre autres, on remodèle les régions puisqu'on passe de 22 à 13. Et puis, on va voir qu'il y a un certain nombre de dispositions qu'on va vers un changement d'échelle, en fait, au niveau des collectivités territoriales. On est dans un changement d'échelle. Donc, il y a un autre élément, une autre dynamique qui est importante, qui... en gros, existe depuis très longtemps, c'est l'intercommunalité. L'intercommunalité existe depuis le début de la commune, en fait. Depuis la fin du 19e, on a ressenti le besoin de mettre en place des instances, des structures qui permettent aux communes de travailler ensemble. Et plus particulièrement, ça a commencé avec l'industrialisation et les réseaux. Comment on va amener les réseaux? Et forcément, on dépasse les limites de la commune, donc il va falloir qu'on gère ensemble. Voilà. Donc, l'intercommunalité existe on dit que c'est l'intercommunalité primitive, mais l'intercommunalité telle qu'on la connaît aujourd'hui, dans sa forme, elle a commencé vraiment en 92. Et à partir de là, on va avoir tout un tas de dispositions qui vont faire qu'on va avoir une affirmation du fait intercommunal. Parce qu'on parle du fait communal. Pour beaucoup, en France, vous savez, on va y revenir, mais le fait communal est quelque chose qui est incontournable, qui fait partie de notre histoire. Voilà. Donc là, on parle du fait intercommunal. Donc, ça, c'est la loi Jox. En fait, ça s'appelle l'administration du territoire de la République. Et la définition qui est donnée à ce moment-là, c'est « le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté d'élaborer des projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité ». Voilà. Donc, libre volonté, on va revoir que la réforme de 2010, on n'est plus dans cette libre volonté. Des projets communs de développement, donc on est bien sur la notion de projet. Alors que l'intercommunalité de Civu, Civom, que vous avez peut-être connue, c'est plus une intercommunalité technique qui gère des problèmes d'ordures ménagères, d'assainissement, etc. Là, on va être dans une intercommunalité de projet. La notion de projet apparaît. Faut peut-être le noter. C'est important. Et des périmètres de solidarité. Et donc, à partir de 92, il va y avoir d'autres lois. 99, la loi Chevènement. Il va y avoir 99 aussi, la loi Voinet. Avant, il y avait eu la loi Pasqua. Enfin, bon, je vous passe tout ça. Mais du coup, on arrive à trois types d'intercommunalité. Il y a l'intercommunalité institutionnelle, on va dire. Et cette intercommunalité, il y a quoi? Il y a, parce qu'on connaît, la communauté de communes, la communauté d'agglo, la communauté urbaine, et puis... En 2010, va apparaître une autre, c'est la métropole. D'accord? C'est bon? Il y a une autre intercommunalité qui va apparaître, une autre forme. C'est celle qu'on a connue au travers des pays. Et qu'on peut peut-être voir se dessiner au travers des PETR. Avez-vous entendu parler de ça, les PETR? Les pôles d'équilibre des territoires ruraux. Donc ça, on va dire que c'est plus une intercommunalité contractuelle. C'est-à-dire que c'est la possibilité qui est donnée à des territoires plus larges de coopérer autour de projets de développement. Les pays, les PETR, bien que après, bon, si on rentre dans les subtilités, les PETR, on peut se poser des questions. Mais bon, on est sur ce schéma-là. On est plus vers, finalement, on va aller petit à petit vers quelque chose qu'on pourrait appeler l'interterritorialité. Territorialité. C'est-à-dire, c'est des territoires plus larges qui commencent à travailler ensemble. Donc, on quitte encore. Vous voyez, on est là, on travaille à l'échelle des communes qui sont ensemble, qui se regroupent. Là, on travaille à l'échelle des intercommunalités qui se regroupent. Et puis, il y a tout ce qui rentre en ligne de compte dans le fait intercommunal, qui est important, qui va rentrer de plus en plus en ligne de compte, c'est tous les outils de planification. Et entre autres, les PLU et les SCOT. Hein? Donc, planification au niveau urbanisme, au niveau local, c'est au niveau urbanisme. Donc, les PLU, plan local de l'urbanisme. Le plan local de l'urbanisme, aujourd'hui, il se fait encore à l'échelle de la commune. Demain, il se fera tout partout à l'échelle de l'intercommunalité. Pour ceux qui sont en commune, suivent un peu. Et les SCOT, là, c'est à l'échelle de l'interterritorialité. C'est sur des grands territoires, on dessine les outils d'aménagement. Bon, on ne va pas s'étendre parce que ce n'est pas vraiment le sujet. Mais il faut savoir que dans le paysage, c'est quand même important. Donc, à partir de là, arrive en 2010 une loi qui est ce qu'on a appelé la réforme des collectivités territoriales, qui, en fait, de réforme des collectivités territoriales, plus de la moitié des articles sont consacrés à l'intercommunalité. Donc on voit que là, c'est un axe fort de la réforme. Donc qu'est-ce qu'elle dit cette loi? Et là, en fait, elle est importante, elle est essentielle, parce que dans cette réforme, il y a tout ce qui suit et tout ce qu'on est en train de voir venir, qui se met en œuvre aujourd'hui. Les régions, alors l'élargissement des régions n'y est pas, mais la métropole y est, la commune nouvelle y est, etc. etc. Donc l'achèvement de la carte intercommunale. Donc on a l'achèvement, donc le principe c'est achèvement et rationalisation de l'interco. De l'intercommunalité. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou j'utilise un jargon pas accessible, n'hésitez pas à m'interrompre. On peut échanger.
Oui, j'aurais une question tout bête au niveau de l'intercommunalité PIPETR. Ça peut sortir du département ou ça s'inscrit toujours dans le département?
Alors là, sur les règles, il y a des élus. Je sais plus. Ça peut sortir des départements sur les PETR. Puisque ça prend les intercommunalités. Si on prend, par exemple, l'intercommunalité Figeac, Cap-de-Nac, Aspillières, tout ça, ils sont avec Figeac, ils sortent du département et ils vont faire un PETR, ou ils ont fait un PETR déjà, je crois. Donc oui, ça peut basculer. D'autres questions ? Avant que je continue mon raisonnement, enfin mon raisonnement, ma présentation. Donc, achèvement et rationalisation de l'intercommunalité, avec l'obligation au 1er janvier 2014, tout le monde dans une intercommunalité. Donc vous voyez que la libre volonté qui était énoncée en 92, c'est fini. On n'est plus sur la libre volonté, c'est une obligation. Alors je vais parler du monde rural, celui qui nous intéresse, donc avec un seuil de 5000 habitants. Donc les intercos doivent faire au moins 5000 habitants. Ah, vous allez me dire, oui, mais nous on n'a pas 5000 habitants. Oui, sauf en zone montagne. Donc 80% du territoire du département de l'Aveyron est en zone montagne, donc pas concerné par ce seuil. D'accord ? Mais il est là. Et puis, pour faire ça, ben on donne des pouvoirs exceptionnels au préfet pendant un an, en gros, un an et demi. Des pouvoirs exceptionnels au préfet pour qu'il puisse agir et que les élus ne bloquent pas le mécanisme. Donc voilà. Et ces pouvoirs exceptionnels, il y a droit tous les 6 ans. Donc c'était 2012, donc normalement 2018, il peut avoir ces pouvoirs exceptionnels pour obliger à refondre encore l'intercommunalité. Parce que si on a achevé, certainement que pour certains, on n'a pas assez rationalisé. peut supposer que la rationalisation n'est pas suffisante. En tous les cas, on peut le supposer au regard des lois qui vont suivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette loi ? Il y a le principe que vous avez certainement vécu pour certains, le principe pour l'intercommunalité, du suffrage par fléchage. Par fléchage pour les scrutins de liste. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est quand vous avez voté, si vous êtes dans une commune d'au moins 1000 habitants, quand vous avez voté, il y avait le bulletin de vote et de toute votre liste du conseil municipal, et à côté, il y avait une petite liste, il y avait des noms qui étaient extraits de cette liste et qui correspondaient aux conseillers communautaires qui, si votre liste sortait, siégeraient à la communauté de communes. C'était la première fois. Avant, il n'y avait pas ce dispositif-là. C'était la première fois. Du coup, ça fait que dans les plus grosses communes, les listes dites d'opposition ou les listes minoritaires ont pu être représentées aussi au conseil communautaire. Avant, ce n'était pas une obligation. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'avant, en communauté de communes, on pouvait décider du nombre de sièges qu'on allait mettre de conseillers communautaires et on pouvait décider librement de la répartition des sièges. Là, c'est la loi qui va encadrer la répartition des sièges. La loi encadre la répartition des sièges. Donc, il y a des seuils. Il y a des strates démographiques, comme pour les communes, et on dit, là, il y aura tant de conseillers communautaires, avec quelques règles où on peut moduler, on peut s'accorder. Bon, voilà, il y a quelques dispositions qu'on peut utiliser, mais n'empêche qu'on encadre de plus en plus le fonctionnement de l'intercommunalité, qui était relativement souple, finalement. Et puis, on va... Le gel des pays, c'est-à-dire on ne peut plus, à partir de 2010, créer de pays. C'est fini. Donc, on ne peut plus créer ces structures-là. Et c'est après que ça va évoluer. Pour l'instant, c'est gelé. Les pays qui existent continuent à fonctionner. Il n'y a pas possibilité d'en créer d'autres. Et enfin, on crée de nouvelles structures. Alors, on va créer quoi ? On va créer celle dont j'ai parlé, la métropole. Donc ça... C'est une intercommunalité, c'est une commune, c'est une communauté, on va dire, pas de commune, mais de grandes communes. Donc à l'époque, quand ça a été décidé, c'était 500 000 habitants. Il fallait qu'il y ait au minimum 500 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 400 000 dans une aire urbaine de 650 000. Ça ne nous intéresse pas trop, en Aveyron, on n'est pas... On crée les pôles métropolitains. Ça, c'est des groupements d'intercommunalités. Là aussi, on n'est pas concerné parce que c'est 300 000 habitants, etc. C'est des groupements d'intercommunalités. Savoir que, par exemple, avec le nouveau modèle de la région qui rassemble Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, à Montpellier... Pour le maire de Montpellier commence à démarcher, j'ai lu des articles là-dessus, démarche les communes avoisinantes, enfin les communes jusqu'à Nîmes, pour essayer de construire un pôle métropolitain, parce qu'on est vraiment dans de la géopolitique locale et qu'il faut peser. Il y a Toulouse qui est fort, et donc il va falloir avoir aussi quelque chose qui ressemble à l'aire toulousaine. Donc il est en train d'essayer de construire un pôle métropolitain. Et puis, il y a celle qui nous intéresse fortement, la création de la commune nouvelle, qui, elle, est une nouvelle collectivité territoriale. C'est un statut de collectivité territoriale, dans le prolongement de la commune. Donc on voit que cette loi, qui est essentielle parce qu'elle met en œuvre, elle pose tous les ingrédients qu'on va ajuster au fur et à mesure. Depuis qu'elle est sortie, il y a eu tout un tas de lois qui précisent le scrutin, qui a précisé le scrutin, qui a dit quand est-ce qu'on mettait le scrutin de liste. Parce qu'avant, au début, dans cette loi, on pensait à 500 habitants, de baisser le scrutin de liste à 500. Finalement, il a été à 1000. Donc là, il y a tout un tas de, de lobbying, on va dire, entre l'Association des maires de France, l'Association des communautés de France. Enfin, voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui rentrent en jeu et qui vont essayer d'argumenter pour aller dans ce qu'ils pensent être le plus juste, le plus intéressant. Et puis, il y a le Sénat qui est important, puisque le Sénat, c'est les représentants des collectivités territoriales, puisqu'ils sont élus par les grands électeurs. Il a un rôle très important dans la mise en œuvre de ces lois. Ils ont d'ailleurs priorité au niveau de la lecture des lois, de ces lois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? On va prendre les faits très récents. Donc depuis, il y a eu une loi qui s'appelle la loi MAPAM, ou MAPTAM, je ne sais plus, qui date de janvier 2014. Et elle, c'est la modernisation de l'action publique, je crois qu'il y a un petit T des territoires, et d'affirmation des métropoles. Grosso modo, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle renforce, elle met encore des outils pour renforcer l'intercommunalité. Au niveau des compétences, on va dire, et puis la mutualisation. La mutualisation est beaucoup à l'œuvre dans tout ça. Donc la mutualisation émerge ici. Hein, il y a un rendez-vous de mutualisation. Donc là aussi, un axe qui existe dans la réforme de 2010 et qui va être activé et réactivé, on va le voir, au travers de la loi MAPAM. Mais finalement, la loi qui est en discussion, c'est encore, on est en train de chercher. Et la loi de finances, certainement, de fin d'année, créera le levier pour obliger les collectivités ou inciter fortement les collectivités à mutualiser. Donc, renforce l'intercommunalité, la création du PETR, pôle d'équilibre des territoires ruraux, hein, que j'ai situé à ce niveau-là, qui doit remplacer les pays, donc il y a un basculement qui s'opère, et qui a été conçu un petit peu pour être, dans le monde rural, le pendant de la métropole ici. D'accord ? C'est un peu comme ça que ça a été pensé. Et puis, un élément important dans cette loi, c'est toutes les conditions de création des métropoles. Les métropoles sont créées, elles, par la loi. C'est la loi qui a décidé. Donc aujourd'hui, la plupart des métropoles sont créées au 1er janvier 2015. En fait, c'est la transformation des communautés urbaines qui avaient tous les critères. Donc Toulouse est métropole depuis le 1er janvier 2015. Il en reste deux qui ne le sont pas. C'est Paris et Aix-Marseille, qui le seront au 1er janvier 2016. C'est un peu plus compliqué chez eux à organiser. Et en cours de discussion aujourd'hui, pour finir, il y a une loi qui s'appelle la loi Nouvelle Organisation des Territoires de la République, NOTRE, on dit, ou NOTRE, je ne sais pas, NOTRE. Et elle a aussi plusieurs dispositions qui vont modifier encore l'intercommunalité, qui vont avoir une incidence. Donc il y a l'élargissement encore de l'intercommunalité, avec des seuils, vous en avez entendu parler, qui iraient jusqu'à 20 000 habitants. Aujourd'hui, c'est ce qui est défendu par la ministre, c'est 20 000 habitants pour les intercommunalités. Alors là, c'est en cours de discussion. 20 000 habitants, vous imaginez, dans certains territoires, nous déjà, ça fait des territoires très très larges, mais si on va dans les Pyrénées, ben voilà, c'est des territoires immenses. Donc, cet élargissement sur les 20 000 habitants, il y aura certainement il y a des outils d'atténuation qui sont en train de se mettre en place sur, entre autres, on parle de la densité en faisant des références de densité par rapport à la densité du département. On ne va pas rentrer dans les détails. Bien sûr aussi, les eaux de montagne sont à prendre en considération. Mais on voit que tous les mécanismes qui étaient là, paf, on va essayer d'accélérer. On est vraiment dans un temps d'accélération des réformes qui étaient pensées, où il y avait déjà les outils pour mettre en place tout ça. Donc les 20 000 habitants, c'est un élément important qui va, on va le voir, qui fait que ça réveille autant la commune nouvelle qu'en 2010 elle est apparue. Je vous disais, on ne s'est pas trop inquiété. Autant aujourd'hui, ça et d'autres éléments que je vais expliquer, d'empêche que la commune nouvelle elle commence à intéresser parce que dans des périmètres de 20 000 habitants, forcément, on élargit tous les... Enfin, en tous les cas, il y a des outils pour élargir et pour peser, et pour exister, et pour continuer. Comme on sait qu'on va fusionner, il va falloir qu'on trouve le moyen aussi de préserver la coopération qu'on a déjà développée. En tous les cas, c'est un outil qui est à disposition. On en parlera après. Donc, il y a aussi, qui est en discussion, l'élection au suffrage universel direct. Là, cette fois-ci, pas par fléchage. On se dit, on va donner plus de légitimité politique à l'intercommunalité. Et donc, on est en train de penser au suffrage universel direct. Là aussi, il y a des levées de boucliers. Voilà. Donc, il faut attendre de voir ce que ça va donner. Toujours dans notre idée de rationalisation de l'intercommunalité, on parle de suppression de syndicats. Tous les syndicats intercommunaux qui ont le même périmètre que l'intercommunalité seraient supprimés par la loi. Il faudrait intégrer les compétences dans la communauté de communes d'office. Et enfin, il y a des outils pour renforcer encore les compétences en disant que, entre autres, l'eau et assainissement en 2017, ce sera d'emblée la compétence de la communauté de communes. Ce ne sera plus celle de la commune, par exemple. Donc il y a encore un renforcement des compétences. Voilà, en gros, voilà, ça vous donne le paysage des dynamiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Il y en a une autre là, en janvier, elle est conséquente, mais il n'y avait pas 10 000 dispositions, c'est les 13 régions. Voilà. Voilà, en gros, où on en est sur le paysage de nos des réformes et des différentes dynamiques qui sont à l'œuvre. Et donc là-dedans, la commune nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette commune nouvelle? C'est la possibilité qui est donnée à deux communes, au moins deux communes contiguës, de se regrouper pour ne former qu'une commune. Alors pour former qu'une commune. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, c'est mon pense-bête parce que si le reste, je l'ai bien manié. Là, comme ça, et puis ça change, puisque Gérard le disait, il y a une loi qui, il y a 10 jours, vient d'être validée, donc a modifié quelques éléments. Mais voilà, donc la commune nouvelle, c'est soit plusieurs communes contiguës se regroupent en une seule commune, ça peut être aussi à l'échelle d'une intercommunalité dans son entier. Donc je suppose qu'il y a des élus, je sais qu'il y a des élus dans la salle. Après, si vous, on pourra, enfin, je pense que c'est intéressant si vous pouvez témoigner ensuite de où vous en êtes de la réflexion. Et puis voilà, je sais qu'il y a des positions différentes, donc même chez les élus. Donc ce serait intéressant après qu'on sache comment vous vivez de l'intérieur ces réflexions. Donc c'est soit une interco qui devient une seule commune, soit ces deux communes, pour des raisons, parce qu'elles ont suffisamment de partager, elles partagent déjà suffisamment de choses et qu'elles trouvent intéressantes de se regrouper en une seule commune. Voilà. Je voulais juste... Oui, j'avais pris quand même quelques chiffres, parce que ça, ben voilà, on est contre, on est pour, on est contre, mais parce que la réalité, elle est là. Aujourd'hui, en France, il y a 36 552 communes, et ça représente 40% des communes de l'Union européenne. Voilà, elles sont en France. Seulement 2000 communes ont plus de 2000 habitants. Tout le reste a moins de 2000 habitants. Voilà. Donc c'est vraiment, pour de vrai, c'est une vraie spécificité française. Et 9400 communes ont moins de 200 habitants. Voilà. Voilà les quelques chiffres. Donc, il faut savoir si la question de la commune, c'est au lendemain de la Révolution française, on est passé de 44 000 paroisses, je crois, à 38 000 communes. Donc, on n'est pas loin, on n'a pas beaucoup évolué. Il y a eu, en 71, une loi qui s'appelait la loi Marcellin, où il y a eu la volonté d'obliger à fusionner les communes. Sauf que 71, ça se situe avant la décentralisation. C'était le préfet qui était obligé, qui était tenu de mettre ça en œuvre. Mais avant la décentralisation, le préfet, certes, c'est le représentant de l'État, mais c'est aussi celui qui siège et qui est très, très proche des élus. Et ça ne s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce qu'il était trop engagé localement et finalement, il était plutôt dans ce rapport de proximité avec les collectivités que dans la mise en œuvre de la politique de l'État. Donc, 71, la loi Marcellin n'a pas eu beaucoup d'effet. Il y a eu quelques fusions, mais pas beaucoup d'effet. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, une fois que la commune nouvelle, en fait, après... Elle rejoint, donc il y a tout un tas de dispositifs, on va voir comment ça fonctionne, mais après, elle relève grosso modo de la réglementation qui s'impose aux communes. Si plusieurs communes se regroupent, pas à l'échelon d'une intercommunalité, mais plusieurs, elles doivent, soit elles font partie de la même intercommunalité, ben voilà, elles restent dans l'intercommunalité, soit elles sont à cheval sur une intercommunalité, il va falloir qu'elles décident dans quelle intercommunalité elles vont aller. Et elles vont se retrouver, elles seront obligées un mois de prendre une décision et au bout d'un mois, voilà, d'intégrer une autre intercommunalité. Quand la commune nouvelle se substitue à la communauté de communes, c'est-à-dire que toute la communauté de communes devient commune nouvelle, elle a 2 ans pour se rattacher à un établissement public, on dit EPCI, établissement public de coopération intercommunale, voilà. Dans les 2 ans. Donc comment ça se fait, ça ? Ça se fait facilement s'il y a unanimité des conseils municipaux. Donc là, tout le monde est d'accord et c'est mis en œuvre. Mais s'il n'y a pas unanimité des conseils municipaux, obligation de consulter la population. Donc il y aura obligation, il y aura vraisemblablement pour beaucoup obligation de consulter à des grandes échelles, sauf 2 communes qui se mettraient vraiment d'accord, mais à des grandes échelles vraisemblablement, ce sera certainement une obligation. Donc, les conditions de consultation, il faut qu'il y ait une participation pour que la consultation soit valable. Il faut qu'il y ait la participation d'au moins la moitié des inscrits sur les listes. Il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés dans chaque commune. Et il faut que les suffrages exprimés représentent au moins 1/4 des électeurs inscrits. Donc pour valider, c'est quand même une procédure qui est Et en plus, il faudra que les 2/3 des conseils, en plus de la population, que les 2/3 des conseils municipaux soient favorables et qu'ils représentent au moins les 2/3 de la population. Donc on a levé la majorité. On est sur une majorité. Voilà pour ce qui est de la mise en œuvre. Ensuite, qu'est-ce qui devient de vos communes qu'on dit communes historiques ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles deviennent, elles deviennent des communes déléguées. Voilà. Il y a la commune nouvelle qui est composée ensuite des communes déléguées. Imaginons une communauté de communes devient une commune nouvelle et ensuite il y a des communes déléguées. Donc, dans ces communes déléguées, il y a un maire. Alors, il y a possibilité de décider qu'il n'y ait pas de commune déléguée, de supprimer la commune déléguée. La commune nouvelle, dans son conseil, son nouveau conseil, peut décider le contraire, qu'il n'y ait pas de commune déléguée. Mais d'emblée, la commune historique devient une commune déléguée. Il y a un maire et il peut y avoir un ou plusieurs adjoints qui sont décidés au sein du conseil de la commune nouvelle et qui vont être désignés par ce conseil. Il y a une mairie annexe, donc dans la commune déléguée, la mairie reste une mairie annexe pour traiter entre autres des questions d'état civil et d'autres... On note beaucoup l'état civil, donc vraiment la base de ce qu'est l'activité de la mairie. Et il y a possibilité de disposer d'un conseil dans cette commune déléguée qui sera désigné par le conseil de la commune nouvelle. Et en tous les cas, décider de créer un conseil, ce n'est pas systématique. Il faut qu'il y ait une majorité des 2/3 dans la commune nouvelle pour créer un conseil. Voilà ce que devient la commune déléguée. Donc après, en termes de... le maire de la commune déléguée Là, c'est dans la dernière loi. Il devient adjoint au maire de la commune nouvelle de manière systématique. Et sinon, donc, au niveau des compétences, le maire de la commune déléguée reste l'officier d'état civil dans sa commune, dans la commune déléguée. Il peut avoir des délégations qui sont de la commune nouvelle qui lui sont confiées, qui sont territorialisées, on dit. Donc la commune nouvelle peut confier des délégations au maire de la commune déléguée. Il va donner un avis sur tout ce qui est urbanisme, foncier, cession immobilière, etc. Et il a la possibilité de créer un comité d'initiative et de consultation des associations. Donc j'y reviendrai sur ce que c'est ça. Mais en fait, si vous voulez, ce dispositif, il a été pensé sur l'exemple sur le mécanisme de Paris-Lyon-Marseille avec les mairies d'arrondissement. Donc on applique. Donc là, il y a tout un tas de compétences que je pourrais vous lire parce que... Non, ça, c'est pas celle-là. Si vous êtes intéressé, on regardera après. Donc s'il y a un conseil, dans la mesure où il y a un conseil, le conseil dans la commune déléguée décide de la répartition des crédits qui sont donnés par la commune nouvelle. Donc il va décider. Donc la commune nouvelle il y aura des dotations qui seront données à la commune nouvelle. Il y a une dotation d'investissement, une dotation d'animation locale qui va servir à l'information, la démocratie, la culture, la démocratie de proximité, et une dotation de gestion locale qui sert au fonctionnement. En gros, trois dotations qui sont données par la commune nouvelle à la commune déléguée. D'accord ? Et donc, le conseil est amené à répartir ses crédits, donc il pourra voir, pour décider de ce qu'ils vont en faire. Il y aura un état voilà, qui sera établi. Ils peuvent gérer des équipements par délégation de la commune nouvelle. Ils peuvent délibérer sur l'implantation de programmes d'aménagement. Ils peuvent saisir pour avis sur un projet qui concerne la commune déléguée. Ils peuvent être saisis, pour avis sur un projet de la commune déléguée. Et ils peuvent décider de l'attribution de subventions, se prononcer sur les PLU, etc. Enfin, voilà, il y a quelques dispositions qui reviendra au conseil de la commune déléguée. Donc la possibilité de créer ce comité d'initiative et consultation des associations, c'est quoi ? C'est un conseil, en fait, d'associations, des associations locales qui se réunissent à côté du conseil de la commune déléguée une fois par trimestre. Et ils peuvent interroger, ils peuvent faire des suggestions et ils ont voix consultative. Voilà. Mais une fois par trimestre, ce n'est pas une obligation, c'est une possibilité. Quant aux aspects financiers, il y a une fiscalité qui va être unique, qui sera au niveau de la commune nouvelle, avec des systèmes de lissage, parce que tout le monde n'a pas forcément les mêmes taux, donc il y a des systèmes, des mécanismes de lissage, et puis une dotation qui sera pour la commune nouvelle, qui elle répartira dans les différentes communes déléguées. Donc le processus de construction de cette commune nouvelle, il est préconisé de mettre en place une charte constitutive. Donc les élus, normalement, ont à travailler, c'est pas une obligation réglementaire en tant que telle, mais c'est un outil qui permet de travailler et de définir le cadre. Cette charte constitutive, elle pourra établir quel est le contexte, rappeler le contexte institutionnel, territorial, les enjeux, les perspectives, pourquoi on fait ça, où on en est de la coopération intercommunale et pourquoi on va vers ça. Et du coup, bien spécifier le projet commun du territoire dans ce pourquoi, voilà, quels sont les motifs, quelles sont les ambitions politiques, quelles sont... voilà. Et puis, cette charte constitutive, elle va donner les modalités d'organisation de la commune nouvelle. Donc, elle va dire les instances, qu'est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'on fait des communes déléguées ou pas, parce que, enfin, d'emblée, il y a des communes déléguées, mais est-ce qu'on les gardera, est-ce qu'il y aura un maire, des adjoints, est-ce qu'il y aura un conseil, voilà, il y a tout un tas de dispositions à décider, de définir le rôle qu'on réservera aux communes déléguées dans cette commune nouvelle. Et puis aussi, toutes les dispositions concernant le personnel, parce que le personnel, est sous le coup de la commune, enfin, sous le coup, est pris en charge par la commune nouvelle. Hein, de fait. Alors, il y a une phase transitoire. La phase transitoire, au départ, elle disait que il fallait, si j'ai bien lu la loi il y a 10 jours, donc avant, il fallait 69 sièges maximum. Donc ça voulait dire que tous les conseillers municipaux ne pouvaient pas siéger dans la commune nouvelle. Avec les nouvelles dispositions, a priori, tous les conseils peuvent siéger, tous les conseillers municipaux peuvent continuer là jusqu'à la fin du mandat. Et après la fin du mandat, la commune revient sur les dispositions des communes. C'est-à-dire selon les strates démographiques, si on a... Il y avait des questions, non ? Faut pas hésiter. Voilà, selon les strates démographiques, et ben on aura tant de conseillers, et puis voilà. Mais après, il y a des possibilités de mettre en place des comités consultatifs, des conférences des maires. Enfin voilà, il y a d'autres instances qui peuvent être déclinées, mais grosso modo, voilà où on en est. Et il y a possibilité donc de désigner des adjoints, et, à hauteur de 30% de la totalité de l'assemblée. Alors, concernant le nom de la commune, le nom de la commune nouvelle, il faut qu'il soit voté à l'unanimité. S'il y a des accords, c'est le préfet qui s'en mêle. Voilà. Et enfin, les dernières dispositions, et c'est un élément qui fait que, effectivement, par les temps qui courent, quand vous savez, les dotations de l'État baissent, puisque jusqu'à 2017, elles vont baisser de 30%, hein, ce qui a été énoncé. Donc, pour les communes de moins de 10 000 habitants, les communes nouvelles qui se constituent de moins de 10 000 habitants, donc avant le 1er janvier 2016, ou alors les regroupements de toutes les communes d'un EPCI, les dotations seront maintenues, plus si on a entre 1 000 et 10 000 habitants, il y aura 5% de DGF en plus, une bonification de DGF de 5%. Voilà, ça c'est la carotte financière pour inciter à construire la commune nouvelle.
Mais les dotations, elles sont maintenues que pendant 3 ans, non ?
Les dotations...
Alors, attends.
Les dotations. Je vais vérifier parce que c'est... Est-ce que c'est maintenu que pendant 3 ans ? Les dotations ? Est-ce que vous savez ?
Oui, c'est 3 ans, je pense.
C'est que 3 ans. Je vais vérifier dans le texte. Pendant 3 ans, les dotations, non ? Le maintien des dotations ?
Jusqu'à 2017, jusqu'à ce qui était prévu 2017.
Voilà.
Après, on sait pas.
Après, on sait pas. C'est ce qui me semblait. C'est que comme les baisses étaient prévues jusqu'à... Pour l'instant, on a annoncé les baisses jusqu'à 2017. On a dit, OK, pas de baisse pour... Il n'y a pas d'engagement pour après. C'est vrai. Il n'y a pas d'engagement pour après, mais il n'y a pas d'engagement non plus à baisser pour après pour les autres, pour l'instant. Hein, puisqu'on a annoncé les baisses jusqu'à de 30% jusqu'à 2017.
Quelles élections ?
2020. Ah oui, 2017, c'est les élections présidentielles, d'accord. C'est vrai. On peut, les engagements s'arrêtent là, quoi. Voilà, grosso modo, je ne sais pas si j'ai été très claire sur qu'est-ce que la commune nouvelle et qu'est-ce que c'est que dans quel contexte ça se situe.
Oui. Quel peut être l'intérêt de regrouper des communes, de faire une commune nouvelle, à partir de 2 ou 3 communes qui veulent bien vivre ensemble, par rapport à une communauté de communes qui, a priori, fédère, s'est organisée, a mutualisé. Qu'est-ce qui peut être gagné là ?
Alors, moi je vais dire ce qui est avancé. Qu'est-ce qui peut être gagné ? D'abord, il y a ce mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de communautés de communes qui savent qu'elles ne vont pas rester dans le périmètre qu'elles ont aujourd'hui, qu'elles vont s'élargir. Donc certains disent, bon, on a eu l'habitude de travailler ensemble, on a construit une habitude de coopération, on a développé des... Alors il y a aussi celles qui ont beaucoup de compétences, qui ont intégré beaucoup de compétences au sein de leur communauté de communes. Quand on se remet... avec une autre communauté de communes, on ne peut pas avoir des compétences à la carte. Exemple, c'est un exemple, vous pourrez en parler pour les représentants de la communauté de communes du pays Rignacois. C'est la compétence scolaire. C'est une compétence un peu particulière. Il y a peu de communautés de communes qui l'ont prise. Et c'est difficile, c'est une compétence qui est difficile à restituer aux communes. Donc, soit, parce que quand, si la communauté de communes s'élargit, soit l'autre communauté de communes accepte de prendre la compétence scolaire, et ce qui est rarement le cas, soit il faut redistribuer, en théorie, il faudrait redistribuer la compétence pour qu'on soit tous au même niveau. Il faut faire un nettoyage quand on se met ensemble. Donc, la commune nouvelle peut être un outil pour dire, ben, finalement, on est en commune, on garde notre compétence scolaire ensemble, et quand on va aller vers les autres, ce sera la commune nouvelle qui aura la compétence scolaire, elle ne sera pas, elle n'obligera pas l'autre, soit elle n'obligera pas à redistribuer, et elle n'obligera pas l'autre communauté de communes à prendre cette compétence-là, par exemple. Donc il y a ça. Il y a le fait de peser dans les 20 000, enfin voilà, dans les périmètres plus larges. Il y a la carotte financière. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... qu'est-ce que j'avais noté, j'avais regardé. Pourquoi peser dans les communautés de plus grandes? Oui, donc il y a certaines expériences qui sont déjà à l'œuvre et qui auraient montré qu'il y a des économies d'échelle qui ont été faites. Et donc, ça permet, dans un contexte de restriction budgétaire, de préserver des marges de manœuvre et de faire des économies d'échelle. Voilà, ça, c'était un argument avancé. Et puis, voilà, poursuivre une dynamique de coopération.
Là, en l'occurrence, on crée un échelon supplémentaire de la vie en communauté. Il y a la commune ancienne, la nouvelle, c'est un échelon intermédiaire supplémentaire. Alors, que va devenir l'échelon commune actuel, quoi, si vous voulez?
Juste pour reprendre ce que vous dites, donc on est vers les 20 000, je veux juste montrer quelque chose. Métropole. Et à l'échelon, si on prend l'interterritorialité, tout ce que je vous ai raconté là, on est sur les PETR, les SCOT, parce que aussi, hein, c'est une échelle large là aussi, les SCOT, si vous avez un peu suivi, les pôles métropolitains. Donc, en gros, quand je vous dis qu'on est dans un changement d'échelle, on est tout est dans l'élargissement en fait. On est systématiquement on est en train de changer d'échelle en réalité. Moi je n'ai pas à défendre. Je vous dis ce qui est en train. Je regarde juste ce qui est en train de se passer. La question qu'on peut se poser, c'est l'éloignement du champ de la décision. C'est-à-dire que les élus, pour l'instant, sont élus à une échelle qui est dans le bloc communal, l'échelle de la commune, mais en réalité, ils vont travailler et décider à d'autres échelles. C'est déjà là, c'est la réalité.
Voilà.
L'intercommunalité,
c'est l'éloignement des citoyens aussi de ces.
Je vous propose un truc, c'est que voilà, vous levez la main comme ça, on peut se distribuer la parole. C'est vrai que c'est l'éloignement des citoyens.
Moi, il y a quelques années, je travaillais dans l'éducation nationale. Il y a quelques années, on a aussi nous imposé, et surtout en milieu rural, des super écoles. Il y avait 10 classes, par exemple comme ça. Donc, quand je vois se dessiner les textes pour définir les nouvelles communes, en fait, on va arriver à ça, puisque on va mutualiser, c'est-à-dire que bon, si on fait un truc caricatural, il y aura mettons 10 communes, il y aura une commune qui aura tous les effectifs, et puis les gamins qui viendront en classe, l'éducation nationale y gagnera en personnel. Les communes aussi, mais qu'est-ce que ça tient la vie de ces gamins et la vie de ces villages? Moi, ça me paraît comme un truc un petit peu monstrueux, ça. Moi, je suis pas d'ici, hein. J'habite dans Lyon, une commune de 3000 habitants. C'est un autre domaine. Et moi, tout de suite, je vois le danger là, par rapport à mon ancien métier, où là, un truc comme ça, c'est du pain béni pour l'éducation nationale. C'est-à-dire que là, ils vont supprimer le 40 postes, ils vont supprimer 150. Et puis les gamins, bon, on va multiplier les autres cas.
Juste un petit point d'ordre. On avait dit après l'exposé d'Olivia. Après l'exposé d'Olivia, on avait dit qu'elle avait peut-être besoin aussi de boire un coup. Et donc, si vous voulez bien, on fait une petite coupure d'un quart d'heure là. Et donc, vous pouvez.